Bonjour, Michel. Moi, si attentive tous les jours à la Terre au carré, celle-ci, vu les circonstances actuelles plus que graves, me semble très vite ne plus être une priorité pour moi. En ce mois de mars 2022, j'aurais aimé entendre aujourd'hui, 1er mars, Mathieu Vidard et la talentueuse Camille dire très simplement « Notre environnement dans ce coin d'Europe va en prendre un coup, et les humains avec. » Car aujourd'hui, le thème « Biodiversité, qui sont les mammifères des villes ?» m'a fait stopper la diffusion. Merci quand même pour tout le reste.
Salut, c'est Maxime de Jouy-le-Moutier dans le 95. Petit message pour que tout le monde puisse un peu se faire son propre avis sur les énergies renouvelables et notamment l'éolien. Je trouve que dans les médias, il y a une très mauvaise presse sur ce genre d'énergie, alors que c'est l'avenir et surtout l'avenir pour une planète plus propre. Donc allez vous renseigner, consultez les sites internet de l'État, de l'ADEME, de professionnels également de l'éolien. Voilà, bonne journée à tous.
Bonjour, Victoire de Paris. Je souhaiterais rebondir à propos d'un message laissé sur votre répondeur hier par une auditrice au nom de Anne concernant le fait de remplacer la notion de pouvoir d'achat par la notion de pouvoir de vivre. J'ai un magasin vrac dans le 15e arrondissement de Paris et je voulais simplement dire que ça me fait plaisir d'entendre ce genre de message car le prix est malheureusement devenu le critère numéro 1 des choix de consommation des Français en ce moment au détriment de la qualité. La conséquence est que nombreux sont les magasins vrac qui ferment. Or, nous sommes qu'un maillon de la chaîne. Derrière nous sont des petits producteurs qui se battent pour défendre notre terroir en faisant du bien à l'environnement. Merci beaucoup en tout cas à la Terre au Carré pour tout ce que vous faites. À bientôt. Au revoir.
Bonjour. Stéphane, Cagnes-sur-Mer. Alors, on voit le prix de l'essence augmenter, les gens désemparés. Moi, je suggère une chose simple. Laisser le temps. C'est-à-dire que les gens ont plus de temps pour aller au boulot, pour revenir du boulot, moins travailler, moins d'heures par jour, pour pouvoir mieux se déplacer en transport en commun, ralentir l'économie qui ne court on ne sait vers quoi depuis tant d'années. Vraiment, il est temps de reconsidérer notre modèle social et laisser du temps aux gens, du temps de vie, tout simplement. Bonne journée.
Bonjour, c'est Hélène, j'appelle les Alpes-Maritimes. J'ai vu que vous accueillez M. Jean Covici dans votre émission. Moi, je vois beaucoup passer de mentions à M. Jean Covici, mais très souvent, c'est toujours un peu les mêmes personnes, et notamment, c'est ces espèces d'ingénieurs qui portent au mieux tout ce qui est un peu la technique. Et moi, je m'interroge vraiment, en fait, sur ce côté d'idole de certaines personnes, et notamment ces jeunes ingénieurs, un peu jeunes cadres dynamiques. Et voilà, et ça m'interroge beaucoup et j'aimerais bien qu'on aille au-delà du club de fans de Jean Covici. Merci beaucoup et encore merci pour vos émissions.
Bonjour, c'est Caroline de Charente. Dans l'approfondissement de mes connaissances sur le climat, j'ai découvert une BD formidable qui s'appelle Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Blin, qui m'ont fait comprendre énormément de choses et notamment les relations entre le climat, l'économie, les enjeux de société, etc. Et je me demandais si un jour on pourrait éventuellement auditionner ce monsieur Jancovici dans votre émission. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Comme le hasard fait bien les choses, chère Caroline, puisque votre message tombe à pic, il est là, Jean-Marc Jancovici, vous avez écouté attentivement, on va même l'auditionner donc pendant cette émission, et que vous fassiez partie ou non de son fan club, eh bien vous pouvez lui poser toutes vos questions dès maintenant. En tout cas, il y avait matière dans le répondeur à discussion, Jean-Marc Jancovici, vous avez entendu pas mal de sujets, le pouvoir d'achat, le prix de l'essence et l'éolien, donc évidemment, toutes ces questions, ce sera pour vous dans un instant, et le numéro du répondeur, c'est 01 56 40 45 45. Elle est absolument partout autour de nous, elle irrigue notre économie, nos modes de vie, elle nous permet de rouler en voiture, de prendre le train pour aller au boulot, elle nous permet de réchauffer nos plats, de prendre une douche, de recharger nos portables, mais aussi de construire des bâtiments, des machines ou de fabriquer des vêtements. Elle, c'est l'énergie, véritable drogue dure dont nous ne pouvons plus nous passer, sauf que aujourd'hui, notre abondance énergétique, principalement basée sur les combustibles fossiles, eh bien est aussi la première cause du dérèglement climatique. La question est donc simple, comment limiter la dérive climatique que nous avons initiée et comment fonctionner sans énergie fossile pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Eh bien, c'est la question que nous allons explorer ensemble avec vous, Jean-Marc Jancovici. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, consultant, enseignant, membre du Haut Conseil pour le Climat et vous présidez le groupe de réflexion The Shift Project qui publie ce livre « Climat crise, le plan de transformation de l'économie française ». C'est chez Odile Jacob. C'est le fruit d'un travail long, 2 années, pour dessiner les contours justement d'une France décarbonée. Depuis la publication de ce livre, la guerre en Ukraine évidemment est venue percuter l'actualité. L'occasion de voir avec vous ce que ça peut également changer sur le front de la lutte climatique. On se retrouve dans un instant et vous allez répondre aux messages qui arrivent déjà très nombreux de la part des auditeurs de La Terre au Carré sur la page de l'émission, sur les réseaux sociaux et sur l'appli France Inter avec vos messages vocaux que vous pouvez nous laisser très facilement pour intervenir dans l'émission. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Oui, alors l'idée n'est pas du tout de faire une comparaison malvenue avec l'Ukraine, mais où est le dernier rapport du GIEC dans les médias? Les scientifiques ont alerté une nouvelle fois sur l'état de la planète et tout le monde s'en cogne.
Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Sophie Vaux, aujourd'hui avec à la technique Loïc Frapsos.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré. Sur France Inter.
Jean-Marc Jancovici, énergie, climat, quel modèle pour un monde durable? C'est le thème de notre discussion avec vous. Avant d'en discuter, j'aimerais bien que vous répondiez quand même à notre auditrice qui vous a interpellé tout à l'heure avec ce sentiment d'être une idole avec son fan club d'ingénieurs technophiles. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Ben écoutez, pour le moment, je n'ai pas l'impression d'être le gourou d'une secte. Je demande pas aux gens de se vêtir d'une manière particulière, de contribuer par leur obol, de se rassembler quelque part et de m'acclamer avec la foule en délire. Je ne sais pas exactement ce que je dois répondre. Jusqu'à maintenant, je fais ce que j'estime être mon métier. Donc mon métier, il inclut notamment d'essayer de vulgariser des sujets qui sont un peu complexes, qui sont les sujets liés à l'énergie et au climat. Il se trouve que il y a un certain nombre de vidéos que j'ai faites qui ont eu l'heure, je ne vais pas m'en plaindre, d'intéresser un certain nombre de gens. Après, je ne m'estime pas être responsable ou comptable oui. de ce que les gens peuvent dire de moi quand je suis pas là, et même quand je suis là du reste.
Voilà. C'est marrant parce que ça arrive assez rarement d'avoir autant de réactions sur le répondeur, par exemple, ou des messages qu'on reçoit comme ça par ailleurs, au moment de votre venue et de son annonce. Vous êtes quelqu'un d'assez clivant, c'est-à-dire que soit on aime Jancovici, soit on le déteste. C'est quoi? C'est le nucléaire, justement, vos positions pour l'atome qui font justement ce clivage?
Ça a été vrai avec un célèbre animateur de matinale dans votre maison.
Oui, Guillaume Herner.
Pas chez vous, mais sur la chaîne Cousine. Mais
ouais.
Non, je pense que ce que j'essaye de faire, notamment dans la vulgarisation que je fais, c'est de nous mettre nous-mêmes face à nos propres contradictions, auxquelles je n'échappe pas. Je suis moi-même un être pétri de contradictions, comme beaucoup des gens qui nous écoutent. Et en fait, quand on met les gens face à leurs propres contradictions, en disant qu'on n'y échappe pas soi-même, y a des gens que ça énerve beaucoup, et il y a des gens au contraire qui se disent « Oui, effectivement, il faut l'admettre, il faut le reconnaître, et il faut reconnaître que c'est ça qui fait que la situation est compliquée. » Parce que si on était tous des êtres parfaitement débarrassés de nos contradictions, ça serait plus simple de gérer un certain nombre de sujets. Je pense que c'est plus ça qui est l'élément clivant que son application à une technique particulière.
Ouais.
Parce qu'après, c'est un point de vue qu'on peut appliquer, enfin, ou plus exactement, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut l'appliquer à plein de choses.
En tout cas, l'énergie, c'est un sujet compliqué en soi.
On est d'accord. Et en particulier, je pense que le nucléaire, il est clivant en ce que ça a été le combat technique de la première génération d'associations environnementales. Il y en a quand même beaucoup qui se sont créés autour de ça.
Ouais.
Et qui portaient un message simple qui consistait en gros à dire l'environnement c'est important, il faut le défendre on voit pas tellement où est le sujet de ne pas le faire. Enfin, je veux dire, ça paraît tellement évident. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que c'est pas évident du tout. Parce que, encore une fois, ça nous met face à un certain nombre de contradictions. Et une, par exemple, c'est que préserver l'environnement, c'est assez violemment, frontalement... contraire à l'augmentation du pouvoir d'achat. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on se dit « Ah tiens, oui, effectivement, alors, ou bien ça énerve, n'importe quoi, on peut faire les deux en même temps, ou bien on comprend que c'est vrai, et à ce moment, on se dit « Ah oui, effectivement, là, on met le doigt sur un truc qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. »
En tout cas, on y reviendra tout à l'heure sur la question du nucléaire. Vous avez vulgarisé cette question de l'énergie dans cette BD « Le monde sans fin » chez Dargaud. Énorme carton, hein. Plus de 150 000 exemplaires, vous rééditez 200 000 nouveaux exemplaires. Il y a tout un nouveau public aussi qui vous a découvert avec cette BD. L'actualité, c'est bien sûr la guerre en Ukraine, Jean-Marc Jancovici, qui est en train de rebattre finalement toutes les cartes mondiales de l'énergie. Est-ce que justement, c'est en train de faire bouger totalement les scénarios qu'on avait envisagés pour la transition énergétique?
Alors depuis, on voit arriver des trucs assez rigolos. Je vais pas le nommer parce que c'est pas le but du jeu. J'ai reçu il y a quelques jours un mot d'un parlementaire belge qui m'a dit j'aimerais bien qu'on discute ensemble parce que vous avez beaucoup de nucléaire dans votre mix. Nous, en ce moment, le prix du gaz est en train de nous faire mal. Alors, je rappelle que la Belgique a décidé de sortir du nucléaire et je rappelle aussi qu'une fois qu'on a décidé de le faire, on n'y revient pas en une semaine. Donc, même si maintenant la Belgique se dit ah bah tiens, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire, ils en ont pris. De toute façon, ils en prennent pour 10 ans ou pour 15 ans ou pour 20 ans. Donc, si le gaz maintenant doit être hors de prix, bah, ils en prennent pour 10 ou 15 ou 20 ans.
Parce qu'on précise que le gaz est évidemment pour ces pays-là un outil, disent-ils, de transition.
Oui, parce que c'est parce qu'en gros, ils vont construire des centrales à gaz pour remplacer le nucléaire. Bon. Donc, bah, ils ont plus le choix. Maintenant, ça y est, il va falloir que le vin est tiré, comme dit le proverbe, il va falloir qu'ils le boivent. C'est exactement pareil en Allemagne, où c'est assez rigolo. Le nouveau ministre de l'économie, qui est un vert, a dit, tiens, peut-être qu'on pourrait prolonger les derniers réacteurs qui nous restent. Bon, là, c'est pareil. Si l'Allemagne considère qu'elle a fait une erreur, je rappelle que l'Allemagne s'est rendue dépendante du gaz russe une fois, puis deux fois, avec les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui ont été construits. Ben, c'est un choix stratégique qui les engage pour des décennies. Donc, on n'en sort pas comme ça.
Est-ce que cette particularité française, justement, du nucléaire, ça va un peu nous préserver par rapport aux autres pays européens face à la situation ukrainienne ou pas?
Pas complètement. À cause de la libéralisation du marché de l'électricité et de la libéralisation du marché du gaz. Alors, le gaz en France est essentiellement utilisé pour le chauffage. Il faut savoir qu'on utilise en France 4 fois plus de kilowattheures de gaz que de kilowattheures électriques pour se chauffer. On a toujours pensé que tout le monde était chauffé à l'électricité dans ce pays, c'est pas vrai du tout.
Mmh. Sachant que le gaz représente 20% à peu près du mix, 15% du mix énergétique français.
Je parle du chauffage là.
Oui, mais
Dans le chauffage, il représente plus que ça. Dans le chauffage des bâtiments, il représente plus que 20% de l'énergie de chauffage, le gaz.
Mais dans le mix énergétique français,
oui, mais il
ne
sert pas au transport, par exemple. Par contre, dans le chauffage, je le dis encore une fois, en nombre de kilowattheures utilisés dans l'année, le gaz, c'est à peu près 4 fois ce qu'on utilise en électricité. 400 TWh de gaz, 100 TWh d'électricité.
Bon. 20%, c'est notre dépendance par rapport à la Russie, hein, en France, alors, sur le gaz naturel.
Non, il faut qu'on... Là, on parle pas des mêmes 20%. Dans la quantité totale d'énergie qu'on utilise en France, effectivement, le gaz représente de l'ordre de 20%. Mais cette quantité totale d'énergie ne sert pas qu'au chauffage. Elle sert aux usines, elle sert au transport. Donc, il y a une partie, et elle sert un petit peu aux centrales électriques, mais pas beaucoup. Si on se limite à la question du chauffage, j'insiste, du chauffage des bâtiments, à ce moment, le gaz représente plus que 20%.
Mais ce gaz n'est pas 100% russe, c'est ça que...
Ah non, non. Alors, si on prend l'Europe dans son ensemble... Non, alors, je connais pas.
En France, c'est 20%. Enfin, du
17%,
gaz russe, c'est
20%. Voilà, c'est ça.
Oui, c'est moins de 20%.
17%.
Ça dépend. En plus, ça dépend un peu des années. Mais par contre, pour l'Europe dans son ensemble, le gaz, la Russie, c'est 30% du gaz. Pour l'Europe dans son ensemble. Et par ailleurs, pour le pétrole importé dans son ensemble, la Russie, c'est 30%.
Ouais, avec donc, des pays comme l'Autriche qui sont dépendants à 100%.
Ça dépend beaucoup des pays, évidemment. Ouais. L'Allemagne l'est plus que nous, etc.
Jean-Marc Jancovici, ce qui se passe aujourd'hui, justement, c'est
ce qu'on est en train de réaliser en ce moment, à propos de l'Ukraine, ouais, plus exactement de la Russie, c'est la dépendance très forte qu'on a aux hydrocarbures russes. Donc on est dans un système dans lequel chacun tient l'autre par la barbichette, parce que effectivement, nous on peut décider de faire 3 miséros russes, mais enfin on va pas leur en faire 50, parce que symétriquement, les Russes peuvent nous faire une grosse misère, qui est de nous couper l'approvisionnement en gaz. Et alors, s'ils font ça, au bout de 9 mois à 1 an, on a des très gros problèmes.
Ouais. Il y a justement, là, on a vu dans l'actualité aujourd'hui, l'Allemagne qui décide de construire, je ne sais plus si 2 ou 3 terminaux pour transformer le gaz naturel liquéfié, d'accord, parce qu'ils n'en ont aucun aujourd'hui. Donc ça pourrait peut-être s'accélérer dans d'autres pays, parce que certains pays donc n'ont aucun de ces terminaux. Les terminaux actuellement sont pleins. Est-ce que ça pourrait, en fait, quelque part être ultra contre-productif pour la transition énergétique et
surtout,
donc pour le climat.
Surtout, ça ne compensera pas les volumes. C'est-à-dire que si la Russie décide de supprimer le gaz qu'elle nous envoie, ce n'est pas avec des importations de GNL qu'on va compenser.
Mais donc, la situation, en gros, est-ce que c'est du qui tout double? Est-ce qu'en gros, ça voudrait dire qu'on pourrait accélérer la sortie du gaz en, je ne sais pas, installant partout des énergies renouvelables dans un temps record? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'on va remettre le charbon en route et que ça va être une cata?
Parce que je redis, le gaz sert avant tout pour le chauffage. Et vous n'allez pas compenser en mettant des éoliennes partout.
Donc ça va être quoi,
les chaudières à gaz. Donc ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ça va redémarrer le charbon. Mais il faut savoir que même le charbon est largement importé en Europe. Hein. La moitié du charbon qu'on utilise en Europe est importé. Et notre premier fournisseur de charbon, vous savez qui c'est? La Russie.
Ouais. Il n'y a plus que deux centrales en France d'ailleurs. Hein.
Je ne parle pas des centrales, je parle de l'ensemble du charbon européen. Là, je parle,
et pour la France,
ailleurs,
moi,
il y a également, ouais, également du charbon pour l'industrie. Donc, si on l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, utilise domestiquement son charbon marron, son lignite, vous savez, les mines à ciel ouvert là, qu'on voit en Allemagne, mais tout ce qu'on appelle la houille, le charbon de bonne qualité, on va dire, en Allemagne, il n'y en a plus, c'est importé.
La météorologue ukrainienne Svitlana Kraskova, lors de la dernière réunion du GIEC, justement lundi, rappelait que l'argent qui finance l'offensive russe vient de la même source que celle qui provoque le réchauffement climatique. C'est vrai, elle a raison de le rappeler, hein, finalement. C'est cette industrie, justement, du gaz et du pétrole. C'est donc, finalement, notre dépendance énergétique qui alimente la guerre aussi, d'une certaine manière.
La Russie est le troisième producteur de pétrole au monde, derrière les États-Unis et l'Arabie Saoudite, et doit être actuellement le premier producteur de gaz. Symétriquement, les hydrocarbures, c'est un morceau très important du PIB russe, hein, l'ordre du quart ou du tiers. Donc effectivement, c'est pour partie notre argent qui permet à la Russie de s'équiper militairement. Oui.
Jean-Marc Jancovici, pour aller vite, finalement, la situation aujourd'hui, donc avec la guerre menée par les Russes, est-ce que c'est une mauvaise chose pour le climat ? Ou au contraire, une opportunité pour essayer d'aller plus vite sur la transition énergétique.
Je dis que la guerre actuelle est une bonne chose pour aller plus vite sur la transition énergétique.
Est-ce qu'on peut imaginer ce qui peut se passer, justement ?
Je ne sais pas si les Ukrainiens vont beaucoup vous porter dans leur cœur.
Mais... Non, mais c'est une vraie question qui se pose quand même, si alors, on est un peu froid et qu'on regarde...
J'ai d'ailleurs la pose sur franceinter.fr, oui, exactement, ouais, cette question.
Alors, moi, je vais vous répondre, à cette question, à une question voisine, mais vous allez voir que la question est englobée. Ce que je crois, c'est que nous n'allons pas faire prendre une direction très différente à la façon dont notre économie est organisée et dont notre vie est organisée en période calme. En fait, le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, donc pas la BD mais l'autre,
on va y revenir, le plan de transformation,
de l'économie française, à titre personnel, je ne crois pas vraiment qu'il pourrait être mis en œuvre, compte tenu de ce qu'il signifie, en période calme. Mmh. Ce qui veut dire qu'il faudra nécessairement une crise pour qu'à un moment, on se dise, on peut pas continuer comme aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse différemment. Alors, ce moment aurait pu arriver au moment du premier confinement dû au Covid. Et en fait, si on a mis en œuvre ce plan, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'existait pas à l'époque. Et donc, même si on voulait faire repartir l'économie sur des bases différentes, en fait, on n'avait pas le plan pour le faire. Donc, là, on a proposé un plan, mais il est encore suffisamment radical, j'ai envie de dire, même si un certain nombre de gens me disent qu'ils trouvent que ce qu'il y a dedans très bien. Mais c'est, en fait, quand vous regardez bien, c'est suffisamment radical pour que ça ne puisse pas advenir en période calme. Donc, il va falloir des crises ou une crise pour que, effectivement, on réoriente le système autrement et donc, à quelque chose malheur est bon.
Mais pardon, mais la crise que nous vivons, avec un peu de cynisme, effectivement, est-ce que c'est pas l'opportunité, justement ?
Elle fait partie des déclencheurs qui sont malheureusement nécessaires pour que les choses se passent différemment. Derrière.
Jean-Marc Jancovici, l'invité cet après-midi de La Terre au Carré.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing. I used to think things were so clear. I was so near to nowhere. I could feel everything in me pushing for certain. Certains are flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit. Less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dive. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement, more decisions, less solutions, less inhibition, less confusion, more intuition, more connection, more nature, more protection, more abundance, more reflection, less instruction, more comprehension, more pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go. Let me let go.
backlash on the past was so special. Yet so in the universal, rolling to the road that you came here for. Look at me, man, came here past foe. Look at the pressure, look at the souls, look at the freedom, look at the clones, look at my scars, look at my bones, look at my foes. More release, more push, more new, more new. Yes, yes, understand how to earn, and you taught me how to earn, so I can be good too. Traveling my rubber land, if you try rather than what's true to you, what's real. This is still all the words from cars sitting on top of your car, with noise in the bottom.
More release, more relief, more belief. Less push, more flow. Please let me let go.
More pressure, c'était Kate Tempest sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Jean-Marc Jancovici, vous êtes notre invité cet après-midi. On parlait de drogue dure tout à l'heure, mais c'est ça finalement. La cause première du dérèglement climatique, c'est notre abondance énergétique qui représente une véritable addiction au fond. Hein.
Oui, c'est très sympa les combustibles fossiles. En fait, quand on regarde le cours de l'histoire, du reste, on se rend compte que l'énergie renouvelable, c'est l'énergie du passé, puisque c'est l'énergie qui a accompagné notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles. Mmh. Et en fait, ça fait 2 siècles qu'on se vautre progressivement de plus en plus dans les délices de l'énergie fossile qui nous a permis d'aller très vite sur Terre, sur les mers, dans les airs, de soulever les plus lourdes charges, de construire tous les objets qui
nous entourent.
De ne plus éclairer à la bougie, n'est-ce pas ?
De ne plus éclairer à la bougie. Absolument. Du reste, il y avait une carte postale qui représentait le grand bal des baleines. Je ne sais plus, une carte postale qui est bien connue là aux États-Unis. Les baleines ont été sauvées par le pétrole, puisqu'on a arrêté de les chasser quand on a remplacé l'huile de baleine
par le
kérosène. Absolument. Mmh. Et en France, du reste, ce qui restait de nos forêts en 1850 a été sauvé par le charbon. Parce qu'on coupait toutes les forêts qui n'avaient pas déjà été coupées pour faire des champs pour alimenter les forges. Et on était en train de tout déforester pour faire du métal.
Mais ce plan de transformation, c'est la cure de désintox alors ou pas ?
On peut le voir comme ça, c'est-à-dire que ce plan de transformation de l'économie française, il est là pour... On a essayé d'être sérieux sur l'accord de Paris. Dit autrement, on a dit chiche, on va vraiment essayer de voir ce que ça représente. Alors, pour rappeler 2 chiffres, l'accord de Paris dit qu'il faudrait limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 et idéalement 1,5 degré entre l'ère dite pré-industrielle, donc on va dire le début du XXe siècle, et la fin du XXIe. Et compte tenu de l'inertie du CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire en pratique qu'il faut que les émissions baissent de 5% par an.
Ouais. Alors 5%, donc ça a été votre cap pour le plan. Hein.
Ça a été notre cap pour le plan, donc il faut des émissions qui baissent de 5% par an. La stratégie nationale bas carbone, elle n'est pas exactement calée sur ces rythmes, mais peu importe, c'est moins 5% par an. Et donc on a dit, on va essayer de voir ce que ça représente pour de vrai. Bon. Et donc on a un problème de physique, parce que les émissions c'est de la physique, et en face de ça on a des flux physiques. Transport, c'est un flux physique, la construction, c'est un flux physique, la fabrication d'objets, c'est un flux physique, etc. Et donc, dans ce plan, on a raisonné avant tout physique.
Donc, vous êtes attaqué à tous les secteurs, finalement.
Absolument. Ouais. Enfin,
le bâtiment, l'automobile, l'agriculture.
Oui, l'administration publique, ouais. La santé, le fret, beaucoup de choses, l'industrie, enfin, beaucoup de choses y sont passées. Et dans chacun des secteurs, on a regardé comment est-ce qu'on faisait pour aller à moins 5% d'émissions par an.
Ouais.
Avec deux contraintes qui sont des contraintes de ressources et des contraintes de compétences, parce que en fait, donc, et tout ça c'est physique, de la compétence et du temps, hein, donc c'est physique. Et puis, donc on n'a pas parlé argent dans un premier temps, on a juste regardé ce qu'il fallait qu'on fasse en termes physiques et les gens dont on avait besoin pour faire.
Voilà, et alors, est-ce qu'on arrive à décarboner partout ou pas ? Où il y a des secteurs qui posent des problèmes particuliers ?
Non, et après la question c'est quelle est la place de la sobriété là-dedans ?
Ouais.
Donc ce qu'on a fait en ordre, c'est que comme nous sommes des amoureux de la technique, comme le disait une de vos auditrices tout à l'heure, on a commencé par ramasser tout ce que la technique permettait de faire en mieux, sans parier sur des choses qui n'existaient pas aujourd'hui. Donc on ne déploie dans le plan que des choses qui existent déjà. Les trucs qui n'existent pas, on ne les déploie pas. Et une fois qu'on a compté sur la technique au mieux, on se rend compte qu'on n'y est toujours pas en termes de rythme de baisse, et donc on fait le complément par de la sobriété, c'est-à-dire une modification de la façon dont on consomme.
Moins produire.
Et moins produire. Absolument.
Mais ça, on arrive à le chiffrer ? On arrive vraiment à le chiffrer ?
Oui.
Et alors, pardon, mais vous dites c'est jouable, pourquoi c'est pas fait alors depuis tant d'années ?
Parce qu'il y a une contrepartie qui est qu'il faut accepter collectivement qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait plus. Par exemple, dans l'agriculture, on considère que les moins 5% de baisse des émissions par an ne sont tenables qu'à condition qu'on mange progressivement de moins en moins de viande. Il faut l'accepter.
À l'échelle, vous parlez de la France uniquement ou l'échelle mondiale? Parce que je veux dire, même si on le fait juste à l'échelle française, ça ne changera pas le reste du monde, on est d'accord?
Alors, si nous, on a raisonné dans l'autre sens. C'est-à-dire, si chacun reste assis en disant « tant que les autres ne bougent pas, moi je ne bouge pas », on est sûr que c'est la catastrophe qui réglera le problème. Donc nous, on a raisonné dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, sachant que à partir du moment où il y a un pays qui commence à faire des choses un peu significatives, c'est absolument évident que les autres vont regarder ça de très près et que ça fera des petits.
Donc, est-ce que nos sociétés, pour autant, sont prêtes à ces renoncements, Jean-Marc Jancovici?
Je pense que les sociétés,
parce
aujourd'hui...
Parce que derrière la sobriété, il y a du renoncement.
Alors là, on va revenir au premier bouquin. Je pense juste que les sociétés, pour le moment, elles ont juste pas compris le mur qu'il y avait devant nous, pour une bonne part. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent qu'on a encore beaucoup de temps, que les ennuis qui nous attendent sont des ennuis qu'on arrivera à gérer. Et en fait, quand on lit la BD, on se rend compte que la réponse à ces deux questions, c'est pas du tout oui de façon évidente. Mmh. Hein ? Il faut bien comprendre que la diminution subie de l'approvisionnement fossile, qui est quelque chose auquel on aura droit de toute façon, même si on le veut pas, et qui a commencé en Europe depuis une dizaine d'années. Hein.
Avec le pétrole déjà sur
Le pétrole, il a passé son maximum de production dans le monde sur la partie dite conventionnelle, c'est-à-dire ce qui n'est pas le pétrole de schiste et ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, en 2008.
Ouais. Si on regarde, on n'y est pas encore pour le gaz et le charbon. Hein.
Alors, on n'y était pas encore pour le pétrole en rajoutant le non conventionnel et les sables bitumineux, mais c'est pas juste avant le Covid, c'est pour dans les années qui viennent. Mmh. Et qui a écouté Pouyanné en ce moment, qui multiplie les avertissements partout. En ce qui concerne le gaz, mondialement on n'y est pas, mais en Europe on y est déjà, parce que le gaz se transporte pas si facilement que ça, même malgré le GNL et les terminaux de gazéification. Et le charbon se transporte encore plus difficilement. Donc en ce qui concerne le pétrole et le gaz et le charbon, pour ces trois énergies, en Europe, on est déjà en contraction subie d'approvisionnement, même si on n'a pas de politique climatique. On y est déjà.
On va y revenir dans un instant. Et en tout cas, il y a trois mots-clés quasiment qui se dégagent. La sobriété, le nucléaire, le renouvelable. On en discute avec vous, Jean-Marc Jancovici. Peut-être une question, Camille, ou on attend
tout
à l'heure?
Allez, on la pose après parce qu'elle est un peu longue.
Allez, 14h32 et c'est votre rendez-vous tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Puisque c'est l'heure de Camille Passauvert.
Et je pose une question un petit peu délicate, on va dire. Une urgence doit-elle en chasser une autre? Elle est soulevée par plusieurs personnes qui, loin de vouloir opposer les urgences, hein, je le précise, s'interrogent sur la non-place qu'a eu le dernier rapport du GIEC dans les médias. Illustration en demandant aux passants ce qu'ils ont retenu de l'actu depuis la publication du rapport lundi.
C'était vraiment Ukraine, 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 et puis...
À part l'Ukraine. Voilà, rien. La guerre que mène évidemment la Russie en Ukraine. D'ailleurs, le GIEC, comme souvent...
GIEC, non, aucune idée.
Jamais vous avez entendu parler du GIEC?
Jamais.
Vous savez ce que c'est?
Non.
Le GIEC, vous savez ce que ça veut dire?
Vous allez me le dire.
Le groupe intergouvernemental des experts pour le climat.
Oh là là.
Voilà, c'est une réalité dans la rue et dans les médias, 13h de France 2 lundi.
Nouvelle alerte des experts climatiques de l'ONU.
Alors non, hein, ce ne sont pas les experts de l'ONU, ce sont les scientifiques du monde entier qui travaillent sur le climat. Quant à la façon de résumer le rapport qui alerte sur les effets établis et généralisés du réchauffement, irréversible, et la nécessité de s'adapter, donc, voici cette fois le 20h de France 2, le même jour, lundi.
La publication du deuxième volet du rapport du GIEC, entre 18 et 30% des espèces sont menacées d'extinction selon l'ampleur du réchauffement climatique à venir. Les populations qui vivent sur les côtes vont-elles devoir s'adapter ?
Alors, il n'y a absolument aucun lien entre la disparition des espèces et la montée des eaux. Mais Anne-Sophie Lapix, hop, elle a tout mis dans la même phrase.
Hein.
J'ai fait zéro montage. Hein. Alors, vous allez me dire, c'était d'abord des éditions spéciales, tous ces journaux. Et puis, au moins, ils en parlent un petit peu. C'est vrai, hein, la 40e minute du 20h sur 44 de journal lundi soir. C'est déjà ça. Rien du tout, par exemple, depuis lundi sur TF1. J'ai regardé tous les journaux, absolument rien. Et Claire, membre du collectif Plus de Climat dans les médias, a fait les comptes.
Lundi, on a regardé sur les journaux de midi et du 20h de TF1, France 2, France 3, M6 et Arte, on a comptabilisé 3 minutes qui ont été dédiées au rapport du GIEC. Donc on peut dire que le sujet est largement passé à la trappe.
À la différence de la fin du masque dans certains lieux publics, du salon de l'agriculture, du carnaval de Venise ou du mode de vie en Finlande, entre autres. Et aucun rattrapage dans les éditions hier, par exemple. Hein, j'ai regardé aussi, il n'y a pas eu grand-chose. Des choix éditoriaux qui interrogent aussi, pour ne pas dire frustrent, les scientifiques eux-mêmes.
Frustré un petit peu, ça, évidemment.
Alexandre Magnan, par exemple, il est chercheur à l'Institut du développement durable et des relations relations internationales, spécialiste des adaptations au changement climatique, et il a participé au rapport.
Ça fait étrange, pour tout vous dire. On a travaillé sur un rapport qui dresse des constats assez inquiétants à l'échelle de l'humanité entière. Et les JT en France n'en parlent pas, c'est troublant. Je pense qu'on a besoin d'un relais très fort par l'ensemble des médias pour nous aider, nous, scientifiques, à faire passer le message, et pas juste pour que nous, notre parole soit portée, qu'on soit valorisé. C'est pas ça la question. La question, c'est de mettre la pression aux politiques publiques. Et plus on aura de public qui met la pression sur les politiques, plus les politiques accéléreront, c'est simple.
Parce que ces programmes, les journaux télévisés, touchent au total chaque soir, chaque jour, chaque soir, non là je parle même que du 20h, plus de 10 millions de personnes. C'est 5 millions, un peu plus 5 millions sur TF1, un peu plus 5 millions sur France 2. Pas forcément sensibilisés d'ailleurs les téléspectateurs, c'est pour ça que le collectif de citoyens vise ces JT en premier. Ils ont même lancé une pétition sur le site Green Voice. Lorraine en est à l'origine.
J'ai remarqué que les personnes qui autour de moi prenaient beaucoup d'informations à la télévision, qui regardent les JT régulièrement, etc., étaient très peu informées sur le dérèglement climatique. Et pour eux, le fait que ces sujets ne soient pas vraiment diffusés, ça donne un sentiment qu'il n'y a pas urgence. Donc ça m'a interpellée. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une carence du côté des médias, du coup ?
Sans parler d'autres émissions très suivies aux mêmes heures, Quotidien, par exemple, où c'est à vous qui en parle assez rarement, alors que nous, on est des émissions spécialisées, donc c'est normal. Ou même les journaux papier, tiens.
Vous êtes sur un truc de niche, quoi. Faut vivre avec l'idée que, voilà, vous n'allez pas conscientiser les masses, quoi. Vous vous adressez à des gens qui sont déjà convaincus. Tout l'enjeu, c'est d'essayer de parler à ceux qui, au départ, vont pas aller chercher l'info, quoi.
Et oui, il a bien résumé ce monsieur croisé dans la rue, qui d'ailleurs m'a bien remonté le moral.
C'est inaudible, hein. Enfin, moi, je me suis fait à l'idée, depuis très longtemps, qu'on va faire l'autruche jusqu'à ce qu'on en meure tous, quoi.
D'où l'importance que la sphère publique au sens large s'empare vraiment de ces sujets. L'enjeu, il est énorme, hein, et le collectif Plus de Climat dans les médias veut justement que les médias mainstream, comme on dit, soient eux-mêmes aidés. J'ai aussi parlé à Marina.
Aujourd'hui, nous, c'est une de nos principales demandes, c'est que justement les journalistes des chaînes télévisées et les équipes de rédaction des JT et l'ensemble de l'écosystème médiatique télévisuel, en fait, soient formés aux enjeux climatiques et aux limites planétaires. Donc, on pense que c'est essentiel, et d'autant plus essentiel que le rapport du GIEC a précisé qu'un des principaux freins en Europe à la lutte contre le dérèglement climatique, c'était que les citoyens ne considéraient pas le dérèglement climatique comme une urgence.
Il y a donc un rôle clé qui ne doit pas être réservé, on le répète, aux spécialistes, sinon ça sert à rien, ou en tout cas ça sert beaucoup moins. Après, au-delà du malheureux conflit des urgences, des catastrophes, le chercheur Alexandre Magnan se questionne quand même sur certains choix.
C'est vrai qu'on a eu l'expérience sur des rapports précédents de tomber, la sortie du rapport tombe au milieu effectivement d'un transfert de Messi au PSG. Messi au PSG, c'est peut-être très bien, c'est important, mais là nous on parle d'un truc qui est peut-être un peu plus important quand même. Et Messi a duré une semaine dans les journaux, le rapport du GIEC qui a duré 24 heures. Faites le calcul.
Et demandons-nous aussi pourquoi nous n'entendons pas forcément, ou on n'a pas envie d'entendre certaines informations, en préférant, c'est vrai parfois, faire l'autruche.
Voilà, Camille Passauvert, c'est à réécouter sur la page de la Terre au Carré.
Jean-Marc Jancovici, est-ce que vous le remarquez, ça, que vous qui intervenez dans beaucoup de médias, que dans des médias comme ça, des émissions comme la nôtre par exemple, spécialisées, on s'adresse beaucoup à des auditeurs qui savent déjà beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez que d'autres émissions, d'autres rendez-vous plus suivi devrait être un peu plus formé sur ces enjeux-là et en parler plus.
Vous avez la réponse avant moi pour la maison dans laquelle nous sommes, parce que vous avez probablement les moyens plus facilement que moi de faire des statistiques pour voir qui, dans quelle émission, parle de quoi. D'une manière générale, c'est clair qu'on parle de ce qui est immédiat beaucoup plus que de ce qui est important. Messi, c'était immédiat, le GIEC, c'est pas immédiat, mais c'est important, mais du coup, on n'en parle pas. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine, c'est immédiat. Le GIEC, c'est important, mais c'est pas immédiat. Il n'y a pas de différence entre dimanche et lundi sur les sujets qui sont traités par le GIEC. Donc, les médias sont quand même aujourd'hui très très configurés pour parler de ce qui est, pardon du mauvais jeu de mots, immédiat. Ils sont faits pour ça. Donc, aller chercher des sujets de fond dans les médias, c'est compliqué. Donc, c'est effectivement dans des cas spécialisés, pas nécessairement aux heures de grande écoute, etc. Ces sujets de fond. Vous avez aujourd'hui des médias émergents sur Internet qui commencent à arriver, et vous voyez le succès des formats longs, par exemple, dans ces médias émergents.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une mission, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mission, ou une fonction plus exactement, d'explication du fonctionnement du monde qui ne peut pas se faire à coup d'interview de 2 minutes. Et qui est de plus en plus absente des médias traditionnels.
Donc il faut laisser la pensée s'exprimer sur le temps long, hein, parce qu'on a besoin d'explications justement. Vous dites dans la conclusion de votre livre là, notre cortex il en est abreuvé de messages d'alerte et pourtant il ne se passe rien. C'est ça le constat finalement.
Une des raisons pour lesquelles il ne se passe rien, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc la raison pour laquelle on a fait ce plan, c'est aussi pour donner un plan. Ouais. Donc un plan, c'est qu'est-ce qu'on fait ?
Un cap.
Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le chercheur qui s'est exprimé en disant qu'il faut faire pression sur les politiques. Non, il ne faut pas faire pression sur les politiques, il faut faire pression sur les électeurs. Les politiques, vous savez, en démocratie, sont pour une large part des exécuteurs testamentaires. Donc ils vont faire, je suis un peu méchant...
Il disait qu'il faut faire pression sur les citoyens pour qu'ils fassent eux-mêmes pression sur les politiques
oui,
publiques.
Et alors, entre les deux, il y a les organisations construites de la société. Donc les organisations construites, c'est quoi ? C'est les entreprises, c'est les collectivités locales, enfin c'est les maillons élémentaires, ou les briques élémentaires plus exactement, du monde, enfin, de l'organisation dans laquelle nous vivons. Et en fait, c'est aussi à ces organisations-là qu'il faut être capable de parler, et c'est une partie de ces organisations-là qu'il faut être capable d'entraîner.
Jean-Marc Jancovici, on consacre les 20 dernières minutes de cette Terre au Carré aux questions des auditrices et des auditeurs, parce qu'elles sont très nombreuses pour vous, pour parler énergie et climat.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on passe souffert. Je suis noire, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche que n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui va souffrir. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Ma première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a-t-on souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qui m'ont pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne, ma Saint-Étienne.
Je tiens d'elle. C'était la voix de Bernard Lavillier.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
J'aimerais savoir si Monsieur Jancovici voit l'énergie nucléaire comme une énergie de transition simplement, qu'il la voit comme indispensable aujourd'hui et dans les dizaines d'années à venir, ou bien il la voit comme une énergie qui pourrait nous servir dans l'avenir, même très lointain. C'est une énergie avec laquelle il faudra toujours compter. Ce qui, moi, m'inquiète beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.
Et merci à vous pour votre message sur l'appli France Inter, Jean-Marc Jancovici. Alors pour y répondre, puisque ça fait partie de ce plan de transformation de l'économie française, la part du nucléaire, transition ou long terme ?
Eh bien, si on prend le nucléaire qui a lieu dans le soleil, il est de très long terme.
Ah oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas celui qu'on va construire.
Justement, donc il faut... Alors pour aller directement à la réponse, si on veut conserver quelque chose qui ressemble pour partie, je dis bien pour partie, alors qu'on l'aura pas en totalité, à la civilisation industrielle que nous avons bâtie sans énergie fossile du tout, je ne crois pas qu'on puisse y arriver sans nucléaire.
Donc l'abondance énergétique, elle passera forcément par le nucléaire, si on veut continuer à vivre comme aujourd'hui, même sans
la
sobriété.
On vivra pas comme aujourd'hui.
Il faut de la sobriété.
De toute façon, on aura de la sobriété. Je vais vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui 1,2 milliard de voitures dans le monde. 1,2 milliard de voitures. Pesant chacune entre une tonne et une tonne et demie. Bon. Vous ne pouvez pas conserver 1,2 milliard de voitures dans le monde avec juste des énergies renouvelables. Vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas de nucléaire, vous aurez essentiellement pas de voiture du tout. Enfin, vous en aurez quelques-unes pour des gens très riches pouvant se payer des panneaux solaires, un peu d'électrolyse d'hydrogène et je sais pas quoi. Tout ça coûtant un bras. J'y reviendrai après pourquoi. Si vous acceptez d'avoir du nucléaire, du coup, vous avez de l'électricité en plus grande quantité. Et donc, vous pouvez imaginer avoir une partie, mais une partie seulement, de l'industrie que nous avons aujourd'hui, qui continue à tourner et qui fabrique une partie et une partie seulement des voitures que nous avons aujourd'hui qui avanceront à l'électricité. Voilà. C'est une affaire de curseur.
Mais sur le nucléaire, Jean-Marc Jancovici, on a énormément de messages, et vous devez vous en douter, qui viennent soulever. Vincent, par exemple, nous dit « Je n'entends jamais Monsieur Jancovici, dont j'ai lu la BD, parler des déchets nucléaires que nous allons laisser pendant de très nombreuses années aux générations futures. »
C'est parce qu'il n'a pas bien lu tout ce que j'ai écrit et qu'il n'a pas bien
écouté. Qu'est-ce que vous répondez sur la question des déchets?
Je vais déjà répondre sur « Je n'entends jamais machin », ça ne veut pas dire que je ne me suis jamais exprimé sur la question. D'accord. Donc voilà une tourdure de question qui est, à mon avis, un peu excessivement accusatoire. Les déchets, on en parle dans la BD. Donc,
sur l'enfouissement.
Donc il n'a pas bien lu la BD. On donne le volume de déchets dangereux venant de la filière électronucléaire que nous avons créée en France. Et on dit que ça fait quelques milliers de mètres cubes. C'est pas beaucoup, ça tient dans un gros gymnase. On explique là où on a l'intention de les mettre. Les Suédois viennent de décider exactement la même chose. Il n'y a pas très longtemps, ils viennent de décider de les enfouir. On n'explique pas tout ce qu'il y a dedans, mais dans le cours que je fais à MinParisTech, qui est en ligne, gratuitement accessible sur mon site.
Elle est jeune, donc ingénieure.
Il y a 2h30 sur le nucléaire, dont une partie sur les déchets, dans lesquels j'explique ce qu'on trouve dedans. Combien de temps ça reste dangereux? Parce que le propre des déchets radioactifs, c'est que leur dangerosité diminue au cours du temps, ce qui n'est pas vrai pour les déchets chimiques.
C'est-à-dire combien de temps ça reste dangereux?
Parfois,
alors
il faut longtemps quand même.
Ça reste dangereux.
En gros, le gros de la dangerosité de ce qu'on produit aujourd'hui a disparu en quelques siècles.
Oui, mais vous rendez compte, ça fait des générations.
C'est l'âge du château de Versailles, il est toujours debout.
Oui, sauf que Jean-Marc Jancovici, des générations aussi, qui ne sont pas forcément au courant qu'ils ont des déchets nucléaires sous les pieds.
Ils sont pas non plus au courant de ce qu'ils vont trouver dans le changement climatique, qui est beaucoup plus grave. Donc, il suffit de les mettre au courant. Ce que je dis, c'est pas un gros problème, quand on regarde les chiffres, comparé à la masse de problèmes que nous avons sur le... Je vais vous prendre un autre exemple. On produit chaque année en France quelques centaines de tonnes de déchets radioactifs hautement dangereux et à longue durée de vie. Certains de ces déchets ne sont pas plus toxiques ou pas moins toxiques que certains des phytosanitaires que nous utilisons aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la même dose létale qui tue un individu, quelques milligrammes ou une fraction de milligramme. Phytosanitaires, aujourd'hui, on en bazarde entre 50 et 100 000 tonnes dans la nature tous les ans.
Est-ce une raison?
Non, mais il faut traiter les problèmes dans l'ordre. Moi, tant qu'on bazarde entre 50 et 100 000 tonnes de phytosanitaires dans la nature, quelques centaines de tonnes de déchets nucléaires, ça me fait ni chaud ni froid.
Et Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'en France, on est plus malin que les Russes de Tchernobyl ou que les Japonais de
Tchernobyl,
Fukushima?
C'est pas du tout un problème de déchets.
Non, mais sur les centrales nucléaires.
Fukushima n'a pas fait un mort à cause du surplus de radioactivité.
Sur le risque.
Le tsunami a fait 20 000 morts. J'ai entendu vos confrères de France Info expliquer que c'était Fukushima qui avait fait 20 000 morts quand même. Hein. On parlait tout à l'heure de la désinformation.
Non, le
sur
risque,
nucléaire, il y en a eu énormément.
Le tsunami a touché la centrale, on le rappelle.
Oui, mais le tsunami a fait 20 000 morts. L'accident de la centrale n'a pas fait un mort à cause du surplus de radiation. Pas un.
Sauf qu'il y a des zones aujourd'hui qui sont plus vivables aussi à Fukushima, comme à Tchernobyl.
C'est une décision réglementaire, c'est pas une décision sanitaire. On pourrait très bien faire revenir des gens dans la zone évacuée de Fukushima, et même la zone évacuée de Tchernobyl, mais c'est une très bonne chose pour la nature que les gens reviennent pas, ça a fait une réserve naturelle dans laquelle on a vu revenir. Oui, on a
même. Au niveau gestion du risque.
On a même réintroduit des chevaux de Prevalsky dans la zone interdite de Tchernobyl, qui était une espèce éteinte en Europe, et les castors qui sont revenus, les loutres, les vautours, enfin tout, parce que l'homme est un tel prédateur et une telle nuisance, un surplus de radioactivité tel que celui qu'on trouve aujourd'hui dans la zone de Tchernobyl, c'est beaucoup plus facile à gérer pour la nature que la présence d'êtres humains.
Et donc,
la nature se porte beaucoup mieux à Tchernobyl.
Et donc, sur la question de la gestion du risque de la part de la France,
Jean-Marc Jancovici,
si vous ne répondez pas à la question, ça fait 4 fois qu'on vous la pose.
Quelle question?
La gestion du risque en France nucléaire, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, la gestion du risque ou la gestion des déchets?
La gestion du risque.
La gestion du risque ne comporte pas que la question des déchets.
Non.
Bon, alors là, vous me réinvitez une heure et on va refaire comme chez Erner. Mais si vous voulez, mais c'est pas le sujet central dont je suis venu parler aujourd'hui. La gestion du risque aujourd'hui, si je vous réponds en une phrase, si les gens sont préoccupés par le risque nucléaire, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur du tabac, des guerres, des piscines. Est-ce que vous savez combien il y a de morts par an à cause des piscines en France ?
De noyades ?
Oui.
Je crois que c'est dans les 3000.
Il y en a
plus qu'avec le nucléaire.
Beaucoup plus qu'avec le nucléaire. Les accidents domestiques, 20 000 morts par an.
En tout cas, Jean-Marc Jancovici.
Donc je dis juste, dans la hiérarchie des risques, les chiffres vous montrent aujourd'hui que même en faisant de très grosses conneries, parce que Tchernobyl, c'est quand même une très grosse connerie, eh bien, vous tuez beaucoup moins de monde qu'avec une très grosse connerie dans une unité chimique.
Et donc,
Bhopal a fait beaucoup plus de morts que Tchernobyl. Et je ne connais pas d'association qui s'appelle Sortir de la chimie. Et je ne connais pas de mouvement de masse de gens disant nous allons arrêter d'avoir des produits chimiques.
Ce qui fait que dans le mix électrique pour 2050, il y a quoi 54% de parts de nucléaire.
Mais si les gens ont une trouille terrible du nucléaire qu'ils n'en veulent pas, moi je dis il n'y a pas de problème. On est en démocratie. Je finis ma phrase. Faisons-le. Simplement, il faut que les gens comprennent bien que c'est l'arrêt total de la civilisation industrielle. C'est pas juste une contraction, comme pas de combustible fossile. C'est juste, on n'en a plus
c'est-à-dire
du tout.
On n'arrivera pas à décarboner sans le nucléaire pour vous.
Si, bien sûr. On a vécu, depuis l'apparition de notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles, dans une civilisation totalement décarbonée.
Oui, si on veut revivre comme il y a plus de 2 siècles.
Donc on
Mais
est bien d'accord.
Si on veut continuer à peu près à vivre Mozart avec quand même
était,
de la sobriété.
Mozart était beaucoup plus intelligent que le plus intelligent de nos ingénieurs actuels, et parce que personne n'a su refaire des symphonies il y a 4 ans depuis, ou à 5 ans. Mais en attendant, avec juste des énergies renouvelables, aucun génie de l'époque n'a réussi à faire émerger la civilisation industrielle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je le redis, sans combustible fossile et sans nucléaire, on a, allez, je vais le dire autrement, on n'a pas avec nucléaire, on a un pouvoir d'achat qui peut ne se diviser que par 3 ou 4. Sans nucléaire, on a un pouvoir d'achat qui se divisera par 50. Mais si c'est ça qu'on veut, j'ai pas de problème avec ça, moi.
Presque 2000 noyades l'été dernier, je le précise, en France.
Oui, mais pas que les piscines.
Vous oubliez de prendre en compte, écrit Philippe sur franceinter.fr, que nos décideurs ne savent plus planifier et construire des centrales nucléaires. Est incompatible, dit-il, avec la durée de leur mandat, donc en attendant déployant des énergies renouvelables qui sont beaucoup plus faciles à déployer. Est-ce que la durée des mandats du président de la République, en l'occurrence, et des députés et des parlementaires en général, est un problème pour la planification.
Je vais répondre à l'attendu de cette question, qui est que les énergies renouvelables sont beaucoup plus faciles à déployer. Oui, mais elles sont beaucoup moins puissantes. J'insiste. Par ailleurs, les énergies renouvelables, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Allemagne, où ça fait 20 ans qu'ils font un effort titanesque en y mettant beaucoup plus d'argent que nous. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ils se disent, on va quand même pas fâcher Poutine parce qu'on a besoin de son gaz. Donc c'est pas si simple que ça. Il faut bien comprendre que c'est certes beaucoup plus rapide de faire une éolienne qu'une centrale nucléaire, mais de faire un système complet pilotable, qui vous garantit de l'électricité à 14 heures quand vous en avez besoin pour faire votre émission, avec juste des éoliennes et des panneaux solaires, ça c'est beaucoup plus compliqué qu'avec des centrales de tête de réseau, quelles qu'elles soient, et en particulier nucléaires.
Mais là on a un petit problème quand même avec les centrales, c'est le renouvellement justement des centrales,
on
et la mise en place,
tout.
et la mise en place des nouvelles, ce
tout
qui va prendre beaucoup de temps.
Quand vous regardez le dernier rapport de RTE, tout est un pari, et déployer un système 100% ENR,
ça prend
ou majoritairement, c'est pas que ça prend, c'est un pari que vous êtes beaucoup plus sûr de perdre parce que ça demande beaucoup plus d'emplacement, beaucoup plus de sophistication dans la gestion du réseau, beaucoup plus de dépendance avec les pays voisins dont il faut être sûr qu'ils vont faire ce qu'il faut pour que vous ayez de l'électricité quand il n'y en a pas chez vous. Ça demande beaucoup plus de moyens de stockage que vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir, etc. Donc en fait, quand vous regardez les paris que ça vous oblige à prendre, et il faut lire, encore une fois, il fait 600 pages, hein. C'est comme le rapport du GIEC, faut le lire. Bon. Ouais. Eh bien, le dernier rapport de RTE, si vous le résumez en une phrase, il vous dit, moins vous faites de nucléaire et plus vous prenez un pari que vous n'êtes pas sûr de gagner.
Jean-Marc Jancovici, un message vocal pour vous au sujet du solaire.
Bonjour. À quand un plan solaire ? Les centrales nucléaires posent à court et moyen terme et long terme des dangers inacceptables pour notre sécurité comme nous le voyons en ce moment. L'éolien dénature nos paysages. Un seul mètre carré de panneaux solaires actuellement génère entre 3 et 4 tonnes d'équivalent pétrole en 25 ans.
Jean-Marc Jancovici.
C'est la même question qu'avant.
Donc même réponse.
Bah oui, c'est toujours le débat, est-ce qu'il faut du nucléaire, des renouvelables, etc. Mais je voudrais insister sur le fait que le cœur de ce qui est contenu dans les deux ouvrages que vous avez là, c'est pas le débat nucléaire versus éolien et solaire, c'est le débat abondance versus sobriété. C'est ça le cœur du débat.
Alors...
Et il y a énormément de gens qui aujourd'hui sont favorables aux énergies renouvelables, qui n'ont juste pas compris qu'on n'aurait pas les mêmes quantités, et que donc si on ne veut pas de nucléaire, j'insiste là-dessus, on est pour une sobriété considérablement renforcée par rapport à une situation dans laquelle il y en a. Mais encore une fois, si c'est ça la volonté populaire, j'ai pas de problème avec ça. Mais en général, c'est pas ça la volonté populaire. Ils ont pas compris que les deux allaient ensemble.
Alors, question de Paola sur Facebook, très concrète. Elle vous demande si en réduisant toute forme de gaspillage, c'est-à-dire éteindre le chauffage et l'éclairage dans les bureaux la nuit, interdire les terrasses chauffées, ne plus exiger de rester en t-shirt chez soi en hiver avec 24 degrés à l'intérieur, interdire aux compagnies aériennes de faire des vols à vide, elle donne plein d'exemples, Paola, est-ce qu'on pourrait atteindre un pourcentage acceptable, demande-t-elle, d'économie énergétique.
L'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête en ce qui concerne les 2 degrés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins 5% d'émissions par an. Ce qui veut dire que...
Pardon, en France ou dans le monde? Parce que les 2 degrés sont... D'accord.
Dans le monde. Et donc en France. Mmh. Ce qui revient à dire d'une certaine manière que d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, d'ici 30 ans, il faut que les émissions aient été divisées par 3. Et donc, il faut que l'empreinte carbone d'un Français ait été divisée, en fait, par 3 à 4. Hein, parce que si les Français font un peu plus d'efforts que les habitants du Lesotho ou de Mongolie, ça veut dire qu'ils doivent diviser leurs émissions plutôt par 4.
Enfin, ils font plus d'émissions que les habitants du Lesotho ou de Mongolie, je pense, les Français.
Absolument. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis... si on doit diviser par 4, malheureusement, supprimer le gaspillage ne suffit pas. Ça aide, c'est évident qu'il faut le souhaiter, mais ça ne suffit pas. Il faut délibérément se passer d'un certain nombre de choses que nous avons aujourd'hui.
Et dans le milieu de l'automobile, de l'agriculture que vous citez, par exemple,
alors, dans le domaine,
il y aura des sacrifices à faire aussi?
Alors, je ne sais pas si ça s'appelle des sacrifices, il y a des arbitrages.
Ouais.
Donc,
mais sur les emplois?
Alors, ça, c'est un autre problème, parce que dans l'agriculture, on peut très bien diminuer la quantité de viande qu'on produit et pourtant augmenter l'emploi. Parce qu'on peut avoir besoin de gens pour faire un certain nombre de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui dans le monde agricole. Par exemple, replanter des haies, par exemple, mettre des cultures intermédiaires, par exemple, transformer plus près de la production, enfin plus près de la ferme, les productions de la ferme. Un exemple tout bête, c'est plutôt que de faire du lait, vous faites du yaourt. Bon, à ce moment, vous embauchez des gens qui vont aller dans le secteur agricole, alors qu'aujourd'hui, ils sont dans le secteur agroalimentaire, plus dans le secteur des emballages, plus dans le secteur du transport.
Ouais, mais il faut rendre ces métiers ailleurs attractifs aujourd'hui, c'est quand même...
Oui,
problème,
hein. Ben, tout est un problème, je le redis. Transformer la société, c'est un problème. C'est pour ça que, question qu'on avait tout à l'heure, est-ce qu'un plan comme ça, il peut être appliqué hors période de crise? Non, parce qu'il suppose un élan suffisant et une volonté suffisante de faire pour que cette volonté, il y ait peu de chances qu'on la trouve en période d'eau calme, parce qu'en permanence, on va nous objecter « Ah, mais il faudrait faire ceci, ah, mais il faudrait faire cela, etc. » Et effectivement, en période de calme...
Et en période d'élection présidentielle, vous l'avez montré, ce plan, à des candidats et à un président en exercice?
Alors, on ne l'a pas montré aux candidats parce que ça nous intéresse beaucoup moins de le montrer aux candidats que de le montrer aux électeurs. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est que les gens qui vont devoir faire aient envie de suivre cette direction. Et les gens qui vont devoir faire, c'est les gens qui votent, avant tout, parce que c'est les gens dans les secteurs économiques qui vont devoir se transformer. C'est dans les secteurs... Ouais, prenez l'exemple de l'automobile. Nous on dit on va devoir faire moins d'automobiles dans un monde qui se décarbone.
Donc il y aura moins d'emplois.
On l'a même chiffré, le moins d'emplois. On pense qu'il y a 300 000 emplois qui disparaissent dans le secteur automobile si on suit notre plan. Donc on est allé voir les syndicats en leur disant bah écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ce truc? Nous on pense qu'il y a 300 000 emplois en moins dans le secteur automobile, mais par contre dans le système vélo on pense qu'il faut 300 000 personnes en plus. Et vous en pensez quoi? Et on a discuté avec eux et on n'a pas nécessairement pris des tomates pourries à la figure.
Bon, Jean-Marc Jancovici, il faudra revenir parce qu'on n'a pas eu le temps de finir notre discussion.
Pourtant,
en tout cas,
une heure,
hein. En attendant, on peut lire ce plan de transformation de l'économie française, ça paraît chez Odile Jacob. Et puis Le Monde sans fin, toujours cette BD avec Blin chez Dargaud. Merci d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré.